Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui l'ancien ambassadeur Frédéric Balaine-Dulaurens pour le catalogue Göring qui vient de sortir aux éditions Flammarion, un document historique préfacé par Laurent Fabius qui a été édité conjointement par les archives diplomatiques dont vous êtes l'ancien directeur et par les éditions Flammarion avec en particulier l'historien Jean-Marc Dreyfus qui a été chargé de travailler sur ce matériel qui n'avait jamais été traduit. Alors qu'on va en parler, la moitié des œuvres de cette collection Göring provenaient de France. Alors, peut-être avant d'entrer plus en détail dans l'histoire de ce catalogue, peut-être pouvez-vous, Frédéric Dulaurens, nous dire un mot de ces archives diplomatiques qui possèdent d'immenses fonds concernant les spoliations et les récupérations artistiques, des fonds qui sont aujourd'hui à la Courneuve et qui sont accessibles au public.
Bonjour. Les archives diplomatiques sont une institution ancienne. Elle remonte à la fin du XVIIe siècle et elle conserve les papiers que l'administration des affaires étrangères a en quelque sorte accumulés depuis plus de trois siècles, qu'il s'agisse de la correspondance des ambassadeurs, des instructions des ministres, des rapports, de toutes sortes de documents, y compris d'ailleurs des documents photographiques à partir de la fin du XIXe siècle. Qui documente l'activité de la diplomatie française, des ambassades, des consulats ou de la vie des Français à l'étranger depuis donc plusieurs siècles. Et ces archives sont, comme vous l'avez précisément dit, aujourd'hui conservées pour l'essentiel dans le centre des archives diplomatiques de La Courneuve, au nord de Paris. Une autre part, un peu plus minime, est conservée à Nantes, au Centre des archives diplomatiques de Nantes. Et toutes ces archives sont communicables selon les règles du Code du patrimoine, c'est-à-dire pour autant qu'elles aient 25 ans d'âge, ce qui veut dire que 99% des archives sont communicables.
Alors, on va tout d'abord revenir à ce catalogue. Peut-être, il est utile de rappeler qui était Göring, un aristocrate, l'un des rares au sein des dignitaires nazis. Il rejoint Hitler dès 1921. Il s'illustre au départ dans la SS avec la mise en place de la police politique, la Gestapo de 1933, et lors de la nuit des longs couteaux du 29 juin 1934, au cours de laquelle la SS élimine la SA. Göring sera en fait le numéro 2 du régime, le Reichsmarschall, de 1940 jusqu'à son suicide en 1946, après avoir été jugé et condamné à mort à Nuremberg. Mais ce qui nous intéresse ici, et ce qui est très bien analysé dans l'introduction de Jean-Marc Dreyfus, c'est son rôle dans la spoliation des Juifs. Tout d'abord en Allemagne, dès 1937, quand il est nommé ministre de l'économie et qu'il va spolier également pour son propre compte les entreprises appartenant aux Juifs. Et puis bien sûr, au cours de la guerre, les œuvres d'art qu'il collectionne depuis 1928, qu'il va spolier ou acheter, on va y revenir avec vous, par le biais d'intermédiaires, dans les différents pays conquis par l'Allemagne nazie, notamment les Pays-Bas, la Pologne et bien sûr la France, où on le sait, il a été l'un des acteurs principaux de la spoliation des œuvres d'art appartenant aux Juifs, avec l'aide et même en concurrence de l'ERR de Alfred Rosenberg. C'est cette histoire-là que raconte le catalogue Göring.
C'est l'histoire, effectivement, de la constitution d'une collection, mais attention, il ne s'agit que, si j'ose dire, que de la collection de peintures. Göring a été connu pour avoir un goût totalement fou d'accumulation de collections. Alors, la collection de peinture est sans doute la plus célèbre, la plus emblématique de ce penchant, mais Göring a également accumulé les œuvres d'art, les statues, les tapisseries, et tout ceci généralement sur fond de spoliation. Donc, il ne faut pas limiter, si je peux dire, l'ampleur du crime à l'accumulation des peintures, même si c'est l'objet de ce livre que de présenter ce catalogue des peintures.
Quel type d'œuvres sont présentes donc, dans ce catalogue? Est-ce qu'on peut faire un panorama peut-être.
C'est une façon d'aborder le problème, c'est-à-dire ce qui serait le goût de Göring. Pour ma part, j'ai un peu de réticence à entrer dans cette vision, parce que, principalement, ce que révèle ce document, le catalogue, ça n'est pas seulement, et même pas principalement, une affaire de goût, d'histoire de l'art au sens étroit du mot. Mm-hmm. C'est quand même l'histoire d'un crime, et je pense qu'il faut prendre les choses plutôt sous cet angle-là. Mais enfin, je vais quand même essayer de répondre à votre question, précisément sur les quelques 1376, pour être précis, œuvres qui sont cataloguées dans ce document. Une grande majorité traduit un goût pour ce qu'on appelle les écoles du Nord, c'est-à-dire les écoles de peinture de différentes écoles en Allemagne, que ce soit la vallée du Rhin, la Souabe, la Franconie, enfin peu importe, la Thuringe, la Saxe, ou bien les Pays-Bas et la Flandre. Enfin, ça n'est pas exclusif d'autres goûts pour notamment les écoles italiennes, vénitiennes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même être assez prudent dans cette approche, parce que, et ça me permet de revenir à ce qui me paraît être l'essentiel, c'est-à-dire le crime, ce que montre ce catalogue Göring, c'est qu'il y a effectivement au début l'affirmation d'un goût quand Göring achète avant la guerre sur le marché, dans des conditions enfin, sur lesquelles on peut revenir, mais enfin c'était des œuvres qui pour la plupart étaient achetées, ou en Allemagne, ou d'ailleurs dans d'autres pays, en Italie, en Suisse, à cette époque. Et puis, tout bascule à partir du moment où l'Allemagne est vainqueur, en 1940, occupe les Pays-Bas, la Belgique, n'oublions pas la Belgique qui a été également martyrisée, et la France, enfin pour ne parler que de l'Europe occidentale. Et à ce moment-là, commence d'une façon brutale, massive, violente, l'espoliation. Le catalogue de la collection montre l'ampleur de ces spoliations. Et à ce moment-là, c'est plus une affaire de goût, c'est une affaire, si j'ose dire, d'opportunité. On prend tout ce que l'on peut prendre et qui paraît beau. Alors, ce n'est plus une question du tout de goût.
Ou d'affirmation d'identité artistique, on va dire. Mais en l'occurrence, c'est vrai que... Alors, c'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que grâce au catalogue, on sait exactement comment était composée la collection, la nature des œuvres, mais aussi leur provenance. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il s'agisse de cadeaux, d'achats ou de spoliation.
Oui, mais à ces indications de provenance s'ajoutent aussi des indications, elles sont intéressantes, de date. Voyez-vous, on peut très schématiquement diviser la constitution de cette collection en deux temps. Göring arrive au sommet du pouvoir en 1933, au début du régime nazi, et va très rapidement, mais bénéficiant de la situation forte qui était la sienne et qui va ne pas cesser de se renforcer, d'ailleurs, dans les années qui suivent, y compris sur un plan tout simplement pécuniaire, financier, va acheter. Mais tout ceci, dans ce premier temps, qui va de 1933 à 1940, la rupture, c'est 40, c'est pas 39, pour des raisons évidentes, concerne environ 210 tableaux sur 1376. Et le reste, c'est-à-dire quelques 1100 tableaux, va être acquis en un espace de temps extrêmement bref, entre 1941 et 1943, début 1944, en gros en 3 ans. Si vous faites le calcul, en 3 ans, 1100 tableaux, même un peu plus, ça fait un tableau par jour. Et c'est là où on est dans la violence de la spoliation et dans la folie de l'accumulation.
Oui, la démesure.
C'est quand même deux temps assez différents dans la constitution de la collection. Et dans ce deuxième temps, le plus important sur le plan de l'acquisition des œuvres, ces quelques 1100 tableaux sont évidemment principalement le fruit de spoliation et des circonstances qui permettaient ces spoliations. Que ce fût aux Pays-Bas, ça commence par la spoliation de la considérable collection du marchand Goodsticker, un marchand juif, mais qui avait une merveilleuse collection, et puis très peu de temps après, quelques semaines après, les spoliations qui commencent en France et qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'occupation, en tout cas jusqu'au début de 1944.
C'est-à-dire qu'à partir de 1940, les œuvres qui entrent dans la collection de Göring ne sont quasiment que le fruit de spoliation.
On peut dire, en tout cas dans leur très très grande majorité, oui. Mais il y a des achats, et puis il y a tout un processus qui est d'ailleurs encore...
Et des cadeaux qui continuent manifestement, puisqu'il y a une volonté courtisane autour de ça.
Oui, bien entendu. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent chaque année. Enfin, moi, j'ai appris maintenant que le 12 janvier était l'anniversaire de Göring. Je l'ai appris parce que dans le catalogue, on voit chaque année, le 12 janvier, des cadeaux est de plus en plus important. C'est-à-dire que être une vingtaine de tableaux, mais de tableaux fabuleux, splendides, qui sont offerts par telle ville, telle société d'assurance, telle hiérarque, etc. Bon, il y a ça, mais il y a aussi quelque chose qui est difficile à comprendre, tout simplement parce que ça n'est pas documenté, et le catalogue ne le fait qu'apparaître en filigrane, c'est que cette collection... se constitue d'échanges aussi.
Oui.
Et donc, il y a des œuvres qui n'entrent pas dans le catalogue, mais dont on sait que Göring avait la main sur elles. Par exemple, des œuvres d'art très contemporain, enfin pour l'époque, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Picasso, qui entrent dans la main, et évidemment, par spoliation, de Göring, mais qui ne vont pas être inscrites dans le catalogue et qui vont en revanche servir de monnaie d'échange pour acquérir soit en Allemagne, soit en Suisse, le marché suisse est très actif, soit de différentes façons, enfin peu importe, des œuvres qui entrent cette fois plus dans le goût de Göring et on retrouve à ce moment-là des acquisitions de Cranach ou de tableaux vénitiens, etc. Donc le catalogue n'est pas complètement,
ne recouvre pas finalement
tout
les...
ce qui a été, j'emploie cette expression un peu vague, sous la main de Göring. Des tableaux qui pouvaient être à un moment dans sa possession et qui en réalité lui servaient à acquérir quelque chose après lequel il courait.
Alors, jusqu'en 1945, le catalogue était conservé apparemment avec la collection, donc dans la maison de campagne de Göring, à une soixantaine de kilomètres de Berlin, maison de campagne d'apparat, hein, où il recevait les hauts dignitaires nazis, une maison d'ailleurs située sur une ancienne chasse impériale, et il envisageait même d'en faire un musée, dont l'ouverture était prévue pour 1952. En 1945, il doit fuir. Qu'est-ce que deviennent la collection et le catalogue à ce moment-là?
Fuir
et détruire. Je crois qu'il détruit.
Oui, je ne sais pas si Göring avait vraiment l'intention de créer un musée au sens où nous l'entendons, ouvert au public. Ça, enfin, je ne suis pas un spécialiste du personnage. J'ai un peu de doute quand même là-dessus. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'essentiel de sa collection, mais pas la totalité, est conservé dans ce lieu dont vous parlez, qui s'appelle Karin Hall, du nom de sa première épouse, Karin, une épouse suédoise, à laquelle il était resté très attaché après sa mort. Il orne ce domaine et il conserve là, jusque très tard dans le déroulement des opérations militaires de la guerre, cette collection, ces collections, je répète, il y avait des peintures, mais également des tapisseries, des objets d'art, des meubles, et ainsi de suite. très, très curieusement, alors que le front de l'Est se rapproche de plus en plus, c'est-à-dire que les troupes soviétiques arrivent de plus en plus près de Berlin, ça n'est que vers le mois de mars ou d'avril 1945 que...
Donc tout à la fin.
Mais à l'extrême fin, à quelques semaines de l'effondrement, que Göring se résout à quitter Karinhal, et à ce moment-là, effectivement, à charger sur un train, dans plusieurs trains, toutes les œuvres qui ornent ce domaine, et à faire sauter, tout simplement, sauter, brûler le domaine, dont il ne reste à ce moment-là pratiquement rien que des ruines. Alors, qu'est-ce que deviennent ces œuvres? C'est là encore aujourd'hui un mystère. Elles sont transportées par train. J'essaye d'imaginer ce que devait être le cheminement d'un train entre Berlin, puisque Karinhal se trouve au nord de Berlin, mais pratiquement c'est Berlin, et le sud de l'Allemagne, la Bavière, à un moment où l'Allemagne était pilonnée, en tout cas pendant la journée, par les bombardements anglais et américains. Donc ça devait être déjà une espèce d'odyssée sur laquelle on est très mal informé. Au fond, comment ça se passait? Les trains, où étaient-ils cachés dans la journée pour éviter les bombardements? Comment circulaient-ils la nuit? Enfin, moi je n'en sais rien, et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'historiens qui le savent. Toujours est-il que ces trains arrivent vers le sud de l'Allemagne, en direction de Berchtesgaden, et... une partie d'entre eux, et là également on ne sait pas exactement ce qui a été totalement acheminé, une partie d'entre eux vont se trouver repérés à la fin des hostilités, c'est-à-dire en mai 1945, quand les troupes américaines et les troupes du général Leclerc, la 2e DB, arrivent à Berchtesgaden. Mais qu'est-ce qui a été perdu en cours de route, plus ou moins près de Berchtesgaden? On ne le sait pas. Est-ce que ce sont des trains ou des œuvres qui ont été carrément détruits? À ce moment-là, les œuvres sont perdues pour toujours. Ou est-ce qu'ils ont été pillés?
Oui, parce que c'est ça une des questions. Oui. Parmi les œuvres spoliées présentées dans le catalogue, est-ce qu'on sait combien ont été restituées? Puisqu'on a ce catalogue, justement, qui permet, qui est certainement un outil.
Bien, je crois qu'il faut renverser la question ou la problématique. Ce que l'on espère, c'est que la publication de ce catalogue va permettre une recherche de provenance des œuvres qui sont répertoriées et qui sont maintenant en plus documentées, puisque à peu près les deux tiers ou les trois quarts des œuvres du catalogue ont heureusement une correspondance en images. Puisque à la même époque où était rédigé le catalogue, étaient effectuées des prises de vue sous la forme de plaques de verre ou de photographies papier que conserve également la direction des archives diplomatiques. Alors ce que l'on a essayé de faire, c'est de mettre en relation le catalogue, et, enfin les notices, les 1376 notices et les photographies, et on y est parvenu dans presque 900 cas. Oui, à peu près. Donc ça permet... où ça peut permettre de mieux documenter ce qu'était la réalité de cette collection, et donc ça devrait permettre logiquement de faire repartir les recherches, ou en tout cas de mieux les documenter, les recherches de provenance des œuvres qui ont constitué la collection Göring. Mais je ne peux pas répondre à votre question sur le nombre d'œuvres qui ont été restituées, et la plus grande difficulté reste celle-ci. Quelles sont les œuvres de cette collection qui n'ont pas été détruites? Ou bien, quelles sont les œuvres qui ont été détruites? Parce que celles qui ont été détruites, on ne sait pas lesquelles, on ne les retrouvera par définition jamais. Elles ont brûlé, elles ont été... Celles qui ont été pillées, celles qui ont été mises de côté, celles qui... j'allais dire, elles peuvent se trouver ici ou là, dans n'importe quel pays, en Allemagne ou ailleurs, dans un coffre de banque ou dans une cave, etc. Et ça peut réapparaître.
Le catalogue lui-même, il a eu une histoire assez incroyable. En l'occurrence, lui, il est réapparu. Donc, c'est Rose Vallant, hein, qu'on connaît bien, qui l'avait récupéré et qui finalement est passé entre les mains des archives diplomatiques à sa mort. C'est bien ça? Ou je fais un résumé peut-être un peu trop rapide?
Non, c'est un résumé, mais c'est encore une histoire compliquée et sur laquelle plane un certain nombre d'incertitudes. Le catalogue, très vraisemblablement, accompagnait les œuvres. Mais encore une fois, ces œuvres ont été, à ce moment-là, reconnu un destin particulièrement mouvementé. Je dis bombardement, cache, pillage, etc. Comment retrouve-t-on ce catalogue? On le retrouve au même moment que l'on retrouve, où l'on retrouve une partie des trains et des œuvres. Ce catalogue, à ce moment-là, apparaît tout de suite très utile et va être sur le champ utilisé par les services américains.
Les Monuments
Men. Voilà, pour essayer de restituer, enfin de rechercher les propriétaires et de restituer ces œuvres. Et le catalogue lui-même porte des annotations, on le voit aujourd'hui, le manuscrit, qui traduisent bien le fait que, à ce moment-là, il a été utilisé, mais il a été également, j'allais dire, malmené. Enfin, on ne l'a pas considéré comme une relique qu'on ne devait pas. Donc, ce qui explique aussi son mauvais état, il y a des pages qui sont arrachées, il y a des annotations qui sont rajoutées, etc. Bon, enfin bref, ça c'était pour nous une difficulté supplémentaire dans l'édition de ce texte.
Mais oui, je vous interromps, oui. Mais effectivement, sur cette question de l'édition, vous avez dû faire des choix, puisqu'il y avait 9 colonnes, je crois. Ce catalogue était établi par les secrétaires de Göring dans une graphie un peu particulière, avec parfois des acronymes, des annotations qu'il a fallu véritablement décrypter.
Oui, mais on n'a fait aucun choix, sinon précisément celui de tout le lier. C'est-à-dire que le livre qui est publié chez Flammarion, sous le titre Le catalogue Göring, reprend en français, c'est traduit en français, absolument tout ce qu'il y a dans le manuscrit original allemand, y compris les mentions non linguistiques, point d'exclamation, souligné, point d'interrogation, les mentions qui n'ont aucun sens. C'est très difficile d'éditer un texte qui est à l'état de hachure. Enfin, il y a parfois des indications qui sont vraiment difficiles à comprendre, mais on a essayé, de la façon la plus honnête, la plus fidèle possible, de tout conserver, absolument tout conserver, à charge ensuite pour les historiens, les experts, d'exploiter ce matériau. Mais on n'a pas fait le choix de dire telle mention nous paraît inutile ou idiote ou impertinente et on la retire. Non, on a absolument tout conserver. Donc ça, c'est un choix éditorial fort, mais c'est le principe de l'édition critique contemporaine.
Est-ce qu'il y a dans ce fonds concernant les spoliations d'autres documents aussi importants au sein des archives diplomatiques qui pourraient être amenés à être publiés à leur tour, ou cette publication n'est finalement peut-être que une façon de faire connaître au public l'existence de ces archives plus largement?
Un document aussi singulier que le catalogue Göring, je n'en vois pas, mais en revanche, beaucoup de documents méritent encore d'être exploités, d'être étudiés. Ça, c'est un appel que je lance à tous les chercheurs, parce que n'importe qui, vraiment, peut venir aux archives diplomatiques. Il suffit de se présenter, c'est gratuit, on présente une carte d'identité, on a une carte de lecteur, et travailler sur ces archives. Moi, je trouve, par exemple, des archives terriblement émouvantes, qui sont les archives des spoliations. Alors, non pas grandioses, si je peux dire, mais les spoliations qui ont été faites dans les milliers d'appartements parisiens. Vous avez là des listes. C'est extraordinairement instructif et bouleversant. Et ce sont des choses qui méritent d'être connu, d'être étudié encore maintenant, même dans la modestie, si je peux dire, de la spoliation qui est documentée par ces archives. Autrement dit, il ne faut pas chercher seulement les documents en quelque sorte et entre guillemets flamboyants, enfin qui surprennent par leur importance, mais il y a aussi des documents, beaucoup de documents qui ont, comment dire, qui sont plus modestes, mais qui apprennent beaucoup et qui intéressent tout le monde.
Sur cette histoire, oui, de la spoliation en France. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Dulaurance. Je rappelle que le catalogue Göring, décrypté par les archives diplomatiques, vient de paraître aux éditions Flammarion. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.